Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Omar Habib est mort à Paris dans la nuit du 8 au 9 mars 2019 d'une tumeur au cerveau. Avant de devenir gardien d'immeuble, il tient pendant plus de 20 ans un kiosque à journaux sur la place de Clichy à Paris, où il devient vite célèbre pour la vie et la joie qu'il y insuffle. Aller acheter son journal chez Omar, c'est presque toujours rigoler, discuter, faire des rencontres. Ce qu'on appelle créer du lien, vivre ensemble, faire société, tous ces mots qui paraissent vides et qui trouvent avec lui un sens pas trop gnangnan. Il fait le boulot des commerçants de quartier, des cafés du coin et des épiciers. Au bout de quelques années, le kiosque devient même le QG d'une association nommée Made in Place de Clichy, destinée à animer la vie de quartier et dont il est le président. À sa mort, les hommages se multiplient, venus des quatre arrondissements qui bordent cette fameuse place et de plus loin encore. Une veillée festive est organisée qui bloque la circulation d'une rue entière, une cérémonie publique dans la grande salle du Père Lachaise et évidemment un pot dans l'immeuble dont il était devenu le gardien, rue L'Écluse. Des célébrités sont là, le chanteur du groupe No One Is Innocent, d'autres commerçants, des riverains. Antoine Perrault se fend dans Mediapart d'un hommage retentissant à celui qu'il qualifie d'être cosmique, rayonnant, à partir du kiosque à journaux de la place de Clichy à Paris. Il raconte aussi la stupéfaction du personnel de l'hôpital Saint-Louis à voir tant de monde à son chevet. Il a fallu expliquer, écrit Antoine Perrault, que non, ce n'était pas un homme politique, ni un gros bonnet des affaires, mais un kiosquier devenu gardien qui espérait prendre sa retraite au début de cette année 2019 pour assouvir à nouveau sa passion des voyages et pour parcourir encore une fois la Bretagne qu'il chérissait. Omar, bien sûr, avait raconté son histoire dans Les Pieds sur Terre, c'était en 2010. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en reparler car nous consacrons cet épisode aux petits commerçants qui font de grandes choses et il fut l'un d'eux. Tout de suite, trois autres histoires racontées par Ilana Navarro.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Monsieur Flamand Michel, j'ai 65 ans et je suis boulanger de formation. Et j'habite la région Franche-Comté depuis maintenant 10 ans. J'ai toujours fait de la boulangerie depuis août 68. Alors je suis à la retraite depuis 3 ans. Donc nous travaillons tous les deux avec ma compagne, Monique, qui se trouve à la boutique, donc qui fait la vente, qui fait la mise en rayon, qui s'occupe des clients. Et puis moi je suis tout seul en production, aussi bien au pain qu'à la viennoiserie, qu'à la pâtisserie. On commence à minuit pour finir à 2h de l'après-midi, quoi. Mais j'avais beaucoup d'arthrose dans les jambes. Donc pour moi, c'était de plus en plus dur. Et puis, je voulais arrêter parce que, bon, l'âge faisant, je voulais arrêter puis profiter un petit peu de ce qui me reste à vivre, entre parenthèses. Disons que nous, bon, on venait d'acheter un camping-car et puis notre truc avec ma compagne, c'était de voyager un petit peu, quoi. Mais tant qu'on avait cette affaire, on ne pouvait pas trop bouger, hein. Et puis, jusqu'au jour de la rencontre avec Jérôme. Qui a changé beaucoup de choses pendant cette période de problème. Alors Jérôme, c'était un SDF, hein, et il venait de temps en temps, il nous avait demandé la permission de faire la manche devant la boutique, hein. C'est quelqu'un de très correct, bon, il n'y avait pas de souci, on ne voyait pas tellement pourquoi lui refuser. Hein. Voilà. Une fois qu'il avait fini, il s'en allait, terminé, il n'y avait aucun souci, ni d'alcool, ni rien du tout. Mais moi, étant très occupé dans mon laboratoire, je n'étais pas souvent dehors. Et ma compagne, c'était au mois de novembre, elle m'avait dit « Écoute, il fait froid, offre-lui un café et puis un croissant, quoi. » Bah, je lui fais « Oui, tu lui dis qu'il descende, il n'y a pas de problème, il vient boire un café quand il veut. Hein. » Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. S'il avait envie de me dire quelque chose, bah, il me le disait. S'il n'avait pas envie, je ne cherchais pas à rentrer dans sa vie. Je ne sais pas si ça allait vraiment bien avec son père. Et pour lui, c'était un choix. La rue, ça a été un choix pour lui. Alors, j'avais fait réparer mon four quelque temps avant. par un marchand de matériel du Jura. Et bon, je ne sais pas, parce que moi je suis boulanger, je ne suis pas mécanicien. Et est-ce qu'ils ont bien fait leur travail? Je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que quand on a remis le four en route, et bien quelques temps après, j'étais très fatigué. Ça m'était jamais arrivé, ça. Un dimanche, j'étais fatigué, mais j'arrivais plus du tout à sortir mon pain du four. Et je me suis assis sur une chaise et puis je m'endormais. Et à ce moment-là, il y a Jérôme qui pensait justement boire un café, puis il descend, il m'appelait toujours papy. Il m'a dit, papy, ça n'a pas l'air d'aller. Bah, j'ai fait, écoute, sors le pain du four parce que je suis fatigué, j'arrive plus à travailler. Alors, il a sorti le pain du four et puis il a vu que ça n'allait vraiment pas. Il est monté voir ma compagne, il a dit, écoutez, appelez de secours, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils sont arrivés peu de temps après et puis ils m'ont emmené à l'hôpital. Donc arrivé à l'hôpital, en urgence, ils m'ont fait une prise de sang. Ils sont descendus 10 minutes après et puis ils me demandaient si je fumais. je fume pas depuis des années. Et quel chauffage j'avais chez moi, comme ça. Et puis ils m'ont dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes complètement intoxiqué. Intoxiqué, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que nous, on avait un four à gaz, un four à pain à gaz. Je voyais que ça. Puis après, il y a cette histoire de réparation qui m'a remis ça en tête. Et puis, je suis resté 11 jours à l'hôpital parce qu'il fallait qu'ils me désintoxiquent de partout. Hein. J'étais complètement à out. Et puis, le chirurgien m'a dit, vous savez, hein, à 10 minutes près, monsieur, c'était fini pour vous. Je me suis dit, je lui dois quelque chose quand même à cet homme-là. Il est sorti du pétrin, je lui devais la vie, entre parenthèses. On était comme soudés, on était comme soudés. Et puis comme je savais qu'il était à la rue, j'y avais donc proposé, écoute, on va te faire une petite place, on va s'arranger, on va te garantir un petit salaire et puis tu seras au moins à l'abri, parce qu'il restait quand même au fournil. J'ai fait, il y a les douches, il y a les toilettes, t'es au chaud, t'auras un salaire, au moins tu pourras essayer de t'engager sur quelque chose. Moi, je lui apprenais le métier, puisque il fallait lui apprendre quelque chose. Et puis je voyais qu'il y mettait de la bonne volonté. Il était prêt à faire n'importe quoi. Hein. Il voulait s'en sortir. Donc j'ai dit, écoute, je vais te former au pain. Au moins toutes les phases principales de la fabrication. Et puis à la fin, il tenait le pétrin, il faisait le façonnage, il faisait la cuisson du pain, il faisait la cuisson des viennoiseries. Donc pour moi, quand j'avais dit, écoute, on va te faire une petite place, tu vas travailler avec nous. Bon, moi j'ai fait pleinement confiance, j'ai laissé les clés. Et puis la chose qu'il ne savait pas, c'est que moi j'ai pas d'heure. Moi, quelqu'un, il n'y avait personne derrière moi pour me dire, monsieur, vous commencez à telle heure ou telle heure. Donc moi, je pouvais commencer à l'heure que je voulais. Et les jours où il y avait beaucoup plus de travail, je commençais plus tôt. Et ça, il ne le savait pas. Alors quand je suis arrivé à 11h du soir dans le fournil, où c'est qu'ils avaient fait une grande table avec bière, vin et puis tout ce qui s'ensuit, puis ils étaient au moins une douzaine en train de picoler, je vais vous dire que ça a déménagé vite fait. Hein. J'ai dit, chez moi, je veux personne. C'est clair, c'est net. Mais là-dessus, non, mais je crois qu'il a compris, parce que après, j'ai pas eu d'autres soucis. Machinalement, en discutant tous les deux, j'ai dit, écoute, si je fais une proposition, est-ce que ça t'intéresserait? Alors, il m'a dit, écoutez, expliquez, je verrai bien. Et alors, j'ai dit, écoute, moi, je te céderai bien mon affaire pour l'euro symbolique. Je te forme à la boulangerie, je t'explique tout, et puis tu reprends l'affaire. Il était emballé, bien sûr. Hein. Et puis donc, avec l'avocat, on avait trouvé une solution où c'est qu'on pouvait le mettre gérant de l'entreprise pendant 3 ans, le temps qu'il fasse un PCF preuve, et puis après, il aurait pu reprendre l'entreprise à son nom. Après, la chose... Bon, on a eu beaucoup de gens qui nous ont fait des courriers en disant que c'était bien ce que j'avais fait, mais il y a des gens qui n'appréciaient pas. On a commencé à perdre des clients parce que on avait embauché un SDF. Il y en a qui nous l'ont dit, on ne vient plus chez vous parce que vous avez un SDF. Alors le problème, c'est que avec tous les travaux qu'ils ont fait dans Dole, mon affaire avait chuté de plus de 60%. Donc la solution pour moi, c'était de faire une liquidation judiciaire. Cette histoire de l'euro symbolique, je pense que c'est lui qui aurait eu tous les problèmes. Mmh. Alors que c'était pas le but. Hein. Le jour où j'ai fait ma liquidation judiciaire, il s'est mis à pleurer comme un gamin. Moi, j'avais essayé, j'avais dit, écoute, Jérôme, je vais faire une chose, je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse te prendre. Et puis, l'appel de la rue a été plus fort. Il est retourné à la rue avec ses copains. Et puis, il est reparti dans l'alcool, dans le chichon. Je dis que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est un bon gars. Et je suis toujours en contact avec lui, puisque je l'ai encore eu il y a 2-3 jours au téléphone. Alors, je profite un petit peu de votre antenne, si des fois il y avait un boulanger qui m'entendait et qui serait prêt à lui tendre la main, ben, pourquoi pas.
Moi, je m'appelle Éric Le Gros, j'ai bientôt 54 ans et j'ai démarré cette activité de fromager depuis septembre 2016. Hein. J'ai préparé cette reconversion professionnelle 2 ans auparavant, puisqu'auparavant, moi, j'étais conseiller d'orientation professionnelle. Le fait de me retrouver ici, place de la Fraternité à Montreuil, c'est un projet d'attente, en fait. Puisque je souhaitais ouvrir une fromagerie en dur et classique. Et puis dans l'attente de trouver un local, j'ai eu cette idée de positionner un camion sur la place en attendant d'ouvrir la fromagerie. Donc moi je dis, bon, comme c'est un food truck de fromage, je vais l'appeler un cheese truck. Donc j'ai ouvert le 9 septembre 2016 et dès la semaine suivante, j'ai eu donc 3 vols, hein, donc un vol de portable. Ensuite, dans la même semaine, ça a été des pieds de terrasse, puisque j'ai aussi une terrasse sur la place. Et puis surtout, dans la nuit, donc du samedi au dimanche, ça a été donc une effraction dans le véhicule avec vol de la caisse, de la balance et de produits. Donc là, ça a été très bouleversant, puisque j'ai été matériellement empêché de démarrer et développer mon activité. Mais... En fait, l'individu en question a été identifié, puisque des témoins l'ont vu pénétrer dans mon camion. Et c'est quelqu'un qui est connu des services de police et de justice, qui est connu dans le quartier depuis une vingtaine d'années, qui, en fait, vit sans domicile fixe, vole du matériel en général, des outils, des choses comme ça, les revend, et avec cet argent, s'achète de la drogue, et ainsi de suite, quoi. Donc... Concernant le vol de la balance et de la caisse, il y a eu quelque chose d'un peu inattendu, c'est qu'un commerçant qui le connaissait lui a parlé et lui a dit « voilà, ce fromager qui vient de commencer, il faut que tu le laisses tranquille ». Alors lui, bien sûr, a dit « non, c'est pas moi, mais je connais les, il disait, je connais les voleurs ». Donc ce commerçant lui a dit bah, « écoute, puisque tu connais les voleurs, tu vas chercher le matériel ». Il a demandé de l'argent et il a rendu le matériel. Donc j'ai pu récupérer dans un premier temps la caisse et la balance contre de l'argent. Et dès le début des premiers actes de vandalisme, j'ai suivi les procédures légales, à savoir déposer plainte, contacter l'assurance. J'étais très surpris de constater que les plaintes étaient classées sans suite, que à condition d'utiliser la loi plutôt que la force, c'est-à-dire ça a été ma philosophie, de vraiment agir dans le cadre légal, de voir que ça fonctionnait pas. Donc un an plus tard, vraiment ce mercredi là où j'étais agressé physiquement et verbalement 2 fois de suite devant témoin par cet individu. Donc un mercredi, moi, en milieu d'après-midi, j'allais rejoindre un fromager qui me livre du fromage. Et dès qu'il m'a vu, il est sorti comme une furie. Il a quand même tenté de me trucider avec un tournevis. Donc moi, je me suis réfugié dans le café, juste à côté, et en attendant qu'il s'en aille. Donc à un moment donné, moi, j'ai été complètement bouleversé. Et je ne sais plus comment je suis arrivé, mais j'ai réussi à contacter une élue du quartier. Et donc cette dame m'a accueilli, m'a écouté et m'a dit « voilà, puisque depuis un an, tout ce que tu fais avec l'aide de la police et de la justice ne donne rien, je te propose qu'on médiatise ce qui s'est passé et qu'on fasse une vidéo et qu'on la publie ». Moi, j'ai dit, bah, s'il n'y a que ça pour faire réagir, s'il n'y a plus que ça pour faire agir, allons-y. La médiatisation a permis effectivement de sentir moins seul, d'avoir aussi pas mal de messages d'encouragement. On a fait le tri entre tous les gens animés par la vengeance, le racisme, la haine, ce que je voulais surtout pas. Donc j'ai mobilisé une avocate qui a bien voulu s'occuper de nos affaires. Et là, les choses ont commencé à se modifier un peu, ont commencé à changer. Toutes les plaintes qu'on avait faites, on a essayé de les rassembler. Toutes ces actions se sont traduites par un procès en bonne et due forme. En fait, il a d'abord eu une garde à vue qui a ensuite été prolongée. Et il est resté 2 mois en détention provisoire à peu près jusqu'au procès, donc au mois de septembre, où des décisions ont été prises, à savoir 18 mois de prison, dont 8 mois ferme. Et surtout, ce qu'on attendait, c'est 3 ans d'interdiction de territoire sur Montreuil et Bagnolet. Voilà. Pendant 3 ans, il ne peut plus mettre les pieds de droit sur les deux communes. Sauf qu'il le fait. Donc aujourd'hui, la situation est la suivante. C'est que, à ma connaissance, il est toujours à l'air libre. Mais je sais qu'il a été éloigné physiquement du quartier par des personnes qui s'en sont occupées. Moi, j'ai jamais souhaité en fait aller dans cette sphère de la violence. Qui n'aurait rien donné sur le long terme. Et puis, moi, je ne voulais pas me retrouver en prison à sa place. Hein, parce que des propositions pour lui régler son compte, j'en ai eu pas mal. mais j'ai remercié tout le monde. Mais moi, j'ai dit, bon, sans forcément y croire ou être naïf, je dis, on est quand même jusqu'à présent dans un état de droit. Les institutions fonctionnent mal, mais elles existent. On va faire ce qu'il faut pour tenter autre chose. Là, les nouvelles qu'on a, c'est qu'il est plus maintenant du côté de la porte de Montreuil. Il n'y a rien qui change vraiment, mais pour moi et pour les gens du quartier, on le voit plus pour l'instant.
Vous êtes là tout le temps ?
On est là souvent et il y a une équipe qui se relaie. Donc la LDNA.
La LDNA, c'est-à-dire ?
La Ligue de Défense Nord-Africaine. Donc s'assure également que tout se passe bien pour Pauline et qu'il n'y a pas forcément encore une personne qui vient l'enquiquiner. Et vérifier que tout se passe bien au sein de la boulangerie. Donc avec tout ce qui s'est passé, il faut bien qu'il y ait des personnes qui puissent... être là pour elle, la soutenir également moralement et s'assurer de sa sécurité.
Oui, je m'appelle Kemoé, Pauline de mon nom de jeune fille et Capirazo, nom de mariée. Je suis... née au Cameroun et je suis en France depuis 20 ans. Je mène l'activité de la boulangerie-pâtisserie ici au 88 rue du Président Wilson.
Quelle ville, dans quelle ?
La ville de Levallois-Perret. J'ai choisi de faire la boulangerie parce que je viens d'un Cameroun où ma famille fait dans ce domaine-là, dont j'avais un peu de recul. Et finalement, j'ai eu la chance de faire l'acquisition de ce fonds de commerce qui existait déjà en tant que tel depuis plus de 60 ans. Et donc, dès le mois de mars 2006, j'ai rencontré l'hostilité du président du conseil syndical de l'immeuble où j'exerce. Lorsque nous avons été à la cour arrière pour nous rendre dans la cave de mon activité pour évaluer ce qu'il y avait à faire pour faire de ça une belle pièce. Il a dit à l'architecte tout de suite, faites pour ces gens l'entrée et la sortie de leur activité chez eux, parce que ce type de personnes, nous n'aimons pas les voir. J'ai été étonnée parce que je me suis posé la question de savoir si il se rendait compte que je comprenais bien le français. Et pendant 13 années, la copropriété m'a interdit d'aller dans les parties communes, mais je n'ai pas porté plainte parce que je continuais à parler avec ma propriétaire au téléphone en me disant qu'un jour elle va se rendre compte qu'elle est en faute. Elle me disait que la copropriété ne me veut pas. Et d'ailleurs, j'ai une date à laquelle elle m'a dit « Laissez mon local, personne ne vous aime là, vous ne ferez jamais d'affaires là. » Elle me disait, je lui disais, mais madame, est-ce que vous vous rendez compte que moi je vous paye chaque mois et vous avez gagné beaucoup d'argent depuis que je suis là, mais moi je n'ai jamais rien gagné. Dites-vous bien que quand j'achète la marchandise ailleurs pour revendre, la marge est très infime, je ne pourrais pas avancer comme ça. Et elle m'a dit, laissez mon local. Autour de moi, j'avais mes frères et sœurs qui me disaient qu'il faut que je parte d'ici parce que les gens ne m'aiment pas. Les gens n'aiment pas les Noirs là, qu'il faut que je parte. Mais vous savez, une activité, quand vous voulez la vendre, vous n'avez pas le client tout de suite. Et si je baissais les bras, j'allais tout perdre parce que je vous dis que mon mari a plus de 80 ans et nous, on n'a pas d'argent. Il a fallu que Maître Rapaport, mon avocat, l'étaye dans ses conclusions pour que le juge décide de les condamner à 50 euros par jour d'astreinte. À la suite donc de la décision du juge, ils m'ont rapidement donné les clés et le code de la deuxième porte pour que j'aie accès, comme tout le monde, à la partie commune. Mais ça, c'est la décision de justice. Dans la pratique, je ne peux pas y aller parce qu'ils m'attendent dans le couloir. Vous comprenez? Le président du conseil syndical, il passe le plus clair de son temps dans le couloir. Et voilà.
Qu'est-ce qui se passe si vous y allez?
Il me menace. Hein. Son fils m'a donné un coup au dos. Hein. Je ne peux pas bien matérialiser la provocation parce que c'est insidieux ce qu'on m'a fait tout au long de toutes ces années. Quelqu'un, même des personnes apparemment respectables, viennent et se mettent dans l'entrée pour dire « Là n'est pas la place d'une personne de couleur, allez à Nanterre ». Je leur ai dit qu'est-ce qu'il y a à Nanterre. Ils m'ont répondu que Nanterre, c'est pour les Arabes et les Noirs. Il faut que j'aille à Nanterre. Et je leur ai dit, mais Nanterre, c'est trop loin. Il y a un cimetière là à Raspail. Pourquoi vous ne m'amenez pas directement au cimetière? Parce qu'ils estiment et me le disent souvent que les Noirs n'étaient pas venus en France pour faire l'activité commerciale, mais pour faire du ménage. La plupart me le disent dehors. Là. Allez faire du ménage. Vous n'êtes pas venus en France pour mettre une activité commerciale. Quand il m'arrive d'être à l'extérieur pour servir les clients, quelqu'un passe en me disant « sale race ». Espèce de chimpanzé. Et parfois le client est là, j'ai du mal à répondre à la personne parce que vous savez, c'est juste un instant et j'ai peur. J'ai donc écrit pour cela au maire en lui disant tout ce que je traversais. Et il m'a donc envoyé une réponse à ma lettre en me disant « Vous serez reçu telle date et telle heure par mon adjoint chargé du commerce. » Et il m'a demandé à combien je vendais mes croissants. Je lui ai demandé s'il avait lu le contenu de la lettre que j'ai envoyée à M. Balkany. Il a insisté pour me demander le prix des croissants. J'ai fini par lui dire que je vendais les croissants à 80 centimes. Il m'a tout de suite dit, ce que vous faites, c'est du dumping, madame. Alignez-vous sur les prix de vos concurrents. Je lui ai dit, mais je n'ai pas de concurrent, monsieur. De chez moi, à la Seine, il n'y a pas une autre boulangerie. Il a insisté et quand je lui ai dit que mon magasin n'est pas agencé et qu'il n'est pas moderne, et qu'en plus, à Levallois, il n'y avait pas seulement les riches, il y avait aussi des pauvres. Il m'a dit de ne pas toucher à ce domaine-là, car quand on est pauvre, on ne doit pas s'installer à Levallois.
Et donc, à un moment donné, il y a eu des gens qui vous ont soutenu?
Si j'ai pu payer les charges pendant 12 années, c'est parce que j'étais soutenue par beaucoup de Levalloisiens qui me disaient même « ne vous laissez pas faire parce que cette activité-là existe depuis plusieurs années ». Si toute la population ne voulait vraiment pas de moi, je n'aurais pas passé toutes ces années ici. La Ligue de défense noire africaine est un jeune mouvement que moi je ne connaissais pas, sauf que Dieu m'a permis de rencontrer quelqu'un qui m'a interpellé une nuit à 3 heures du matin en me disant « il existe un mouvement noir africain qui défend les gens qui sont dans votre situation ». Et j'ai contacté la Ligue, je leur ai raconté exactement comme je vous raconte là. La Ligue m'a dit, mais nous arrivons là. Comme quoi on peut arriver à certains noms comme être combattante en passant par des tristes histoires comme celles que je vous ai racontées.
Dance in the curtains and soft breezes blow.
Summer,
c'était Ma vie de commerçant, un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Cécile Lafont. Merci à Michel Flamand, à Régine Roy, à Eric Legros, à Pauline et à la Ligue de défense noire africaine. C'est Jeanne Delecroix et Camille Richir qui s'occupent de la production des Pieds sur Terre et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.
Summer.